Merci d'écouter RFI, midi et demi en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et retour sur ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu hier à Abuja.
Le départ des trois pays de l'Alliance des États du Sahel a été acté. Ce sera à partir du 29 janvier, mais un délai de transition de 6 mois pour tenter de les faire revenir au sein de la sous-région a été décidé. Un sommet au cours duquel un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie sous la dictature de Yahya Jammeh a également été mis en place. Autre sommet qui lui devait se tenir hier à Luanda, en présence des présidents congolais et rwandais sur un potentiel accord sur la situation dans l'est de la RDC. Il a finalement été annulé après l'absence du président Paul Kagame.
Et on en parlera avec votre invité ce midi, chercheur au groupe d'études sur le Congo.
Et puis qui pour succéder au Nigérian Victor Osimhen au palmarès du Ballon d'Or africain, les CAF Awards, c'est ce soir à Marrakech. Revue d'effectifs et des chances de chacun des 5 finalistes, ce sera avant 13h temps universel.
La CEDEAO a donc officiellement acté le départ de son organisation des 3 pays de l'AES, Burkina Faso, Mali et Niger.
C'était hier lors d'un sommet des chefs d'État à Abuja, au Nigeria, une sortie à compter du 29 janvier prochain, avec tout de même un délai de transition de 6 mois qui doit permettre d'organiser les modalités de départ. Bonjour David Bachet.
Bonjour Nemo.
Ce délai qui a également comme objectif, selon Oumar Touré, président de la commission de la sous-région, de poursuivre des médiations sénégalaises et togolaises afin de ramener les 3 pays membres au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest.
Oui, alors ce n'est pas une prolongation du délai de retrait, mais ça y ressemble. Le 29 janvier prochain, les pays de l'AES ne seront officiellement plus membres de la CEDEAO. Eux qui considèrent leur départ comme effectif et irréversible depuis déjà près d'un an, auront tout de même encore 6 mois de réflexion. Un délai qui sera surtout utile à la CEDEAO elle-même, qui n'a pas réagi hier à l'annonce inattendue, la veille de l'AES, qui offre la liberté de circulation aux ressortissants des pays de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale pourrait-elle accorder la réciprocité aux citoyens maliens, nigériens et burkinabés, ce qui pourrait être perçu comme une victoire, évitant la désintégration de la CEDEAO tant redoutée, ou comme un aveu de faiblesse, une concession démontrant l'incapacité de la CEDEAO à retenir ces 3 pays, se pose aussi la question des droits de douane.
Et David, les pays de la CEDEAO ont donc à ce stade choisi de ne pas choisir.
L'option de la rupture serait synonyme de CEDEAO forte, cohérente, mais avec des conséquences potentiellement dommageables pour les populations des pays de l'AES. Le même dilemme en fait que lors des sanctions imposées après les coups d'État militaires. Mais l'option d'une CEDEAO plus flexible serait aussi celle d'une CEDEAO à la carte, qui permettrait au régime putschiste de conserver les avantages en se passant des inconvénients liés à la gouvernance démocratique. Ces 6 mois supplémentaires devront permettre aux pays ouest-africains d'harmoniser leur position. Face à un régime fragile comme le Burkina, pose un chercheur ouest-africain, à un Niger qui n'a toujours pas mis en place de transition et à un Mali qui pourrait organiser des élections, la patience est peut-être la stratégie de la raison.
David Bachet, autre décision prise lors de ce sommet, la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie entre 1994 et 2017. C'était sous la dictature de Yahya Jammeh, désormais réfugié en Guinée équatoriale. Une institution qui devrait se pencher sur l'exécution de près de 250 personnes lors de cette période. Disparition forcée, viol, actes de torture ou encore détentions arbitraires se sont succédés. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
Et pour les victimes toujours en vie, c'est l'espoir que justice leur soit enfin rendue.
C'est la première fois que la CEDEAO établit un tribunal spécial pour poursuivre en justice les responsables de crimes graves commis sur le territoire d'un État membre. Dans un communiqué publié par le ministère de la Justice gambien, le président Adama Barrow a fait part de sa gratitude suite à cette décision monumentale. Je cite « Les victimes du régime de Yahya Jammeh ont déjà pu témoigner dans le cadre de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation établie en 2018 dans leur pays. Ces recommandations ont poussé les autorités gambiennes à envisager des poursuites contre 70 personnes, dont Yahya Jammeh, le dictateur déchu qui a fui en Guinée équatoriale après sa défaite aux élections de 2016. Aucun accord d'extradition n'existe entre les deux pays, mais la Guinée équatoriale pourrait avoir du mal à refuser de livrer Yahya Jammeh face à un tribunal représentant toute la sous-région. Jusque-là, les rares procès des crimes commis durant ces 22 années au pouvoir se sont déroulés loin de la Gambie. L'ex-ministre de l'Intérieur gambien et un ancien membre d'un escadron de la mort ont notamment été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et condamnés à de lourdes peines de prison en Suisse et en Allemagne.
Merci Lisa Fabian.
Il soufflait un vent d'espoir sur l'est de la République démocratique du Congo depuis l'annonce par le président angolais d'une nouvelle réunion en présence de ses homologues congolais et rwandais.
Oui, la rencontre était prévue ce dimanche à Luanda, mais Paul Kagame n'a finalement pas fait le voyage de Kigali suite à l'échec de négociations la veille lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. Le principal point de désaccord entre les deux parties, c'est que le Rwanda voulait conditionner la signature d'un accord à des discussions directes entre Kinshasa et les rebelles du M23, ce dont la RDC ne veut pas entendre parler. Je vous propose d'écouter à ce sujet la porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama.
Nous sommes donc venus à Luanda constater tout simplement et encore une fois la mauvaise foi du Rwanda. Vous le savez, le Rwanda vient de conditionner la signature de l'accord par une nouvelle exigence, un dialogue direct de la RDC avec le groupe armé, le groupe terroriste M23. Depuis le début du processus, il n'a jamais été question de conditionner la signature de l'accord par un dialogue quelconque avec le M23, ce qui constitue pour nous en tout cas une ligne rouge. Nous avons été clairs là-dessus, le président de la République l'a dit à maintes reprises, nous n'allons pas dialoguer avec le M23 et nous le disons, le M23 n'existe pas, c'est le Rwanda. Ce que nous, RDC, considérons en tout cas comme une entrave majeure aux efforts pour rétablir la paix dans la partie est du pays. Vous savez qu'il y a eu plusieurs réunions, rencontres ministérielles et cela n'avait jamais été abordé. Alors nous, on dit tout simplement que cette condition du Rwanda torpille expressément le processus de paix et démontre clairement, la face du monde en tout cas, nous prenons la communauté internationale à témoin, que le Rwanda n'est pas engagé pour la paix et ne veut pas lâcher, en l'occurrence, sa créature qu'est la M23, qui leur permet de continuer à piller illégalement les ressources de la RDC.
Tina Salama avec Paulina Zidi. La délégation présidentielle congolaise était donc sur place ce dimanche à Luanda, pas la rwandaise qui n'a pas fait le déplacement. Mais alors comment explique-t-on cela depuis Kigali? Élément de réponse avec notre correspondante, Lucie Mouillot.
D'après le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Ndungirehe, face à l'impasse des discussions ministérielles à la veille du sommet, la rencontre prévue ce dimanche à Luanda entre les chefs d'État n'avait plus de raison d'être.
On a passé 9 heures sur un seul point, du fait que le Congo a catégoriquement refusé toute idée de dialogue avec le M23, ce qui contredisait l'accord initial. Donc les chefs d'État ne pouvaient pas venir alors que le seul point à l'ordre du jour n'était plus d'actualité à cause de l'intransigeance congolaise.
Kinshasa affirme qu'un dialogue avec le M23 n'a jamais été au programme de Luanda. Le groupe armé n'était pas évoqué dans le concept d'opération signé fin novembre, un document abordant la neutralisation des FDLR et le retrait des mesures défensives rwandaises, dont l'efficacité dépend, selon Kigali, de la recherche de solutions avec les rebelles.
Dans le meilleur des scénarios où le concept des opérations est appliqué à 100%, si on ne règle pas la question des M23 en même temps, demain matin, après-demain, la RDC va encore accuser le Rwanda et on aura fait tout ça pour rien. Donc cette question doit être réglée.
Dans un communiqué, le Rwanda dénonce également des menaces formulées par des dirigeants congolais, mais selon le ministre, le pays reste ouvert à un accord si une proposition concrète et sérieuse incluant un dialogue avec le M23 est présentée. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Des centaines, voire des milliers de morts, les inquiétudes du préfet de Mayotte après le passage du cyclone Chido dans ce département français de l'océan Indien.
Et sur place, les moyens de communication sont toujours extrêmement perturbés. Nombreux sont ceux qui sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Illustration à Madagascar, où étudient près de 3000 Comoriens. Reportage Guillaume Fabry.
Chaque heure, presque depuis cette catastrophe, j'essaie d'appeler.
Cela fait 2 jours que Swali Ali Mansour, président de l'association des étudiants comoriens de Madagascar, essaye de contacter son frère Jamel et un cousin qui se trouve à Mayotte. Mais son téléphone sonne désespérément dans le vide.
Votre correspondant n'est pas joignable. Vous pouvez le rappeler ultérieurement.
Et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à entrer en contact avec eux. J'ai appelé la famille qui sont à la Grande Comore, mais eux aussi n'arrivent pas à entrer en contact avec eux. Donc toutes les Comoriens sont très inquiètes parce qu'on a toutes les familles partout dans les îles.
Dans son appartement d'Antananarive, Swali Ali Mansour ne lâche pas des yeux son écran de télévision où défilent les dernières nouvelles de Mayotte sur les chaînes d'information françaises.
Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aider, mais on compatit sur la situation dans l'île de Mayotte. Et nous souhaiterons aussi aux autorités qui sont sur place de mettre tous les moyens possibles pour essayer d'aider les habitants de Mayotte. Surtout pour les installations sanitaires, parce que j'ai vu que l'hôpital a été lourdement touché, mais aussi pour le rétablissement des lignes de communication, parce que si on arrive à entrer en contact avec la famille, l'inquiétude sera peut-être baissée.
En plus de l'eau et de l'électricité, le préfet de Mayotte a cité hier soir la téléphonie mobile comme besoin essentiel à rétablir au plus vite pour la population. Guillaume Fabriant, Tananarive, RFI.
RFI, midi 40 à Conakry. Voilà bientôt 2 semaines en Guinée que l'on reste sans nouvelles du journaliste Habib Marouane Camara, directeur du site d'information Le Révélateur 224. Le 3 décembre dernier, alors qu'il se rendait chez un homme d'affaires, il a été arrêté et violemment agressé par des gendarmes en banlieue de Conakry, selon des témoins, avant d'être transporté vers une destination inconnu. Si une enquête pour arrestation arbitraire et séquestration a bel et bien officiellement été ouverte, ni la justice ni le gouvernement n'ont communiqué sur son évolution depuis. L'épouse d'Habib Marouane Camara, Mariama Lamarana Diallo, a donc écrit une lettre ouverte au général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Ce lundi, elle crie également sa détresse sur RFI. Sidi Yansane a pu la joindre.
Je n'ai d'autre choix que de faire recours à vous pour avoir des nouvelles de mon cher époux. Le ton de sa lettre est digne, mais ne cache pas la détresse de Mariama Lamarana Diallo, car après la disparition de son mari, la journaliste et épouse d'Habib Marouane Camara s'est rendue chez les procureurs, à la police, la gendarmerie, dans l'espoir de trouver une oreille attentive. Elle interpelle désormais Mamadi Doumbouya, président de la transition et général d'armée, car ce sont des gendarmes qui ont enlevé son compagnon.
Ce ne sont pas des assaillants, ce ne sont pas des gens venus d'ailleurs. Ce sont des Guinéens comme moi. La meilleure manière, ça aurait été de procéder normalement après une plainte et après la DPJ, c'est de transférer le dossier devant un tribunal pour qu'il reprenne devant ses faits.
Actuellement enceinte, Mariama Lamarana Diallo interpelle également le président en tant que père de famille. Vous êtes un époux et un père aussi. Je suis confrontée à la peine de mes enfants, se désole-t-elle. Son aîné de 6 ans reste inconsolable.
C'est lui mon cas le plus difficile parce qu'à tout moment, il me demande « Maman, pourquoi papa ne rentre pas à la maison ? Son papa a voyagé, mais pourquoi il ne m'appelle pas au téléphone comme d'habitude ?» Je lui dis « C'est parce qu'il n'y a pas de réseau. » Donc j'essaie un peu de détourner son attention avec ça, mais je ne pense pas pouvoir tenir vraiment longtemps.
Mariama Lamarana Diallo n'a toujours pas reçu de réponse du président ou du gouvernement. Elle n'exclut pas de porter cette nouvelle affaire de kidnapping au niveau international.
Nous sommes le lundi 16 décembre et comme chaque année, c'est aujourd'hui en Afrique du Sud qu'est célébrée la journée de la réconciliation.
Mais 30 ans après le début de la démocratie, les inégalités sont encore particulièrement élevées. L'accès aux terres, par exemple, est encore difficile pour les populations noires. La Fondation Nelson Mandela a d'ailleurs, la semaine dernière, lancé une procédure judiciaire contre le gouvernement pour son inaction en termes d'accès équitable à la propriété. Certains estiment que, malgré le temps, le processus de réconciliation est loin d'être achevé. C'est le cas de l'une des petites filles de Nelson Mandela, Dileka. Valentin Hugues l'a rencontrée à Johannesburg.
Dileka Mandela nous donne rendez-vous dans un restaurant au nord de Johannesburg. Pour elle, ce 16 décembre, c'est un jour qui célèbre le pardon accordé par son grand-père.
Mon grand-père a choisi de pardonner ceux qui l'ont emprisonné, qui l'ont empêché de voir grandir son fils, mon père. Il a choisi la réconciliation.
En 1995, moins d'un an après son élection, la commission Vérité et Réconciliation a été créée. L'objectif est de permettre aux victimes de témoigner de la violence de l'apartheid.
Même avec le travail de cette commission, toute la vérité n'a pas été dite. Aujourd'hui, nous sommes très loin de la réconciliation. Et quand on exprime une certaine colère, on nous parle de la nation arc-en-ciel, comme si finalement, nous n'avions plus le droit d'être en colère.
Comme pour reprendre le flambeau de son grand-père, Dileka Mandela a créé une fondation qui milite pour l'émancipation de la jeunesse. C'est Born Free, c'est-à-dire né libre en démocratie.
Beaucoup d'entre eux n'ont pas de travail. Et à cause de cette frustration, ils se dirigent vers la drogue, la délinquance. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'accepter que l'on part de très loin et agir maintenant, pour que les jeunes, dans 30 ans, ne se disent pas « nous avons finalement régressé ».
En ce 16 décembre, les Sud-Africains sont invités à s'engager sur le terrain dans leur communauté pour continuer ce travail de réconciliation au quotidien. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
À Johannesburg, il est 14h44.
Afrique Midi, Nemo en piste.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, on revient sur l'annulation de dernière minute du sommet de Luanda, sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle devait réunir les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Jason Stearns, chercheur au groupe d'études sur le Congo, est notre invité. Nous sommes à Dakar également, où l'Institut Pasteur, après 100 ans de présence sur le continent africain, milite pour une plus grande autonomie vaccinale. Avant cela, de la musique avec la compilation Nigeria spéciale volume 3. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h, temps universel. Tout de suite, les sports. Et cette question, qui pour succéder ce soir à Victor Osimhen au palmarès du Ballon d'Or africain? Ils sont 5 en lice à prétendre au prestigieux titre délivré par la CAF. Les CAF Awards se tiennent ce soir à Marrakech, au Maroc. Revue d'effectifs et chances respectives avec Eric Mamrut.
Deux favoris se détachent pour succéder au palmarès à Victor Osimhen. Un autre Nigérian, tout d'abord Ademola Lookman. L'attaquant de poche est montré convaincant, que ce soit en sélection avec 3 buts inscrits lors de la dernière CAN et une place de finaliste, comme en club avec l'Atalanta Bergame, le club italien avec lequel il a marqué une vingtaine de buts cette année, notamment cet incroyable triplé lors de la finale de la Ligue Europa remportée face au Bayer Leverkusen. L'autre favori également a foulé les compteurs cette année. Serhou Guirassy en a inscrit 28 avec Stuttgart pour terminer deuxième de la Bundesliga et deuxième au classement des buteurs derrière Harry Kane. L'attaquant guinéen également décisif avec son nouveau club de Dortmund mais aussi avec le Sili National, même s'il n'a pu lui offrir la qualification pour la CAN 2025. Simon Adingra a lui remporté la dernière chez lui en Côte d'Ivoire, délivrant notamment 2 passes décisives lors de la finale face au Nigeria. Pas sûr que cela suffise à décrocher le Graal ce soir, surtout au regard de sa saison plutôt moyenne avec Brighton. Les 2 autres finalistes paraissent encore plus en retrait. Le défenseur Achraf Hakimi, pièce maîtresse du Paris Saint-Germain, auteur du doublé coupe championnat de France, mais bredouille cette année avec le Maroc. Et enfin, Ronwen Williams, le gardien des Mamelodi Sundowns, dont le seul fait d'armes est d'avoir emmené quasiment à lui tout seul l'Afrique du Sud en demi-finale de la CAN 2024.
Eric Mamrut du service des sports de RFI. Début de la cérémonie des CAF Awards à Marrakech ce soir à 18h. Universel. De la musique également dans cette édition d'Afrique Midi, au programme du groove africain avec la compilation Nigeria spéciale volume 3, des pépites musicales d'une autre époque que José Marinho a écouté pour RFI.
Dans la compilation Nigeria spéciale volume 3, on y découvre 19 trésors effacés des mémoires publiés dans les années 70 et dans lesquels, comme le sous-titre l'indique, l'innovation électronique rencontre la culture et la tradition. En 1970, l'arrivée des nouvelles technologies bouleverse le paysage musical du Nigeria. Synthétiseurs, boîtes à rythme et des styles qui y sont associés, pop, disco, soul, rock et funk, se télescopent avec des genres locaux, résultat de l'afrobeat aux sonorités occidentales ou du highlife en version dub, comme ici par le chanteur et compositeur nigérian Sonny Okusun. Loin d'être tous édifiants, ces titres d'illustres inconnus ont le mérite d'avoir jeté les bases de l'afrobeats avec un S, véritable phénomène musical au Nigeria, dont la plus grande star de ce style urbain est Burna Boy aujourd'hui.
José Marinho du service culture de Radio France Internationale. 13h48 ici à Paris. La suite d'Afrique Midi dans quelques instants. Avant cela, les principaux titres de l'actualité. Anne Cantner.
La première prise de parole de Bachar al-Assad depuis la chute de son régime il y a 8 jours, le président déchu assure dans un communiqué ne pas avoir fui de manière préméditée en anticipant la fin. Et ce, alors que la communauté internationale, elle, commence à rencontrer les nouvelles autorités de Syrie, on apprend que les États-Unis et l'Union européenne échangeront demain sur la ligne à suivre. Les secours à pied d'œuvre à Mayotte, on en parlait il y a quelques instants. 3 ministres sont en visite sur l'île, dévastée par le passage du cyclone Chido. Et le président français tiendra ce soir une réunion de crise. Et puis la fin du procès de Mazan, toujours en France. Le principal accusé, Dominique Pellicot, a présenté des excuses ce matin, de même que quelques-uns de ses co-accusés, ceux qui étaient venus au domicile de la famille pour violer Gisèle Pellicot, préalablement droguée par son mari. Le verdict doit être rendu à la fin de la semaine. On en parlait tout à l'heure, ce sommet annulé à Luanda hier, il devait réunir en principe les présidents congolais et rwandais à l'invitation de leur homologue angolais. Toutes les parties s'étaient dites optimistes pour arriver à un accord de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais la délégation présidentielle rwandaise a finalement décliné sa venue à la dernière minute. Et pour en parler, Nemo, Jason Stearns est votre invité.
Bonjour Jason Stearns.
Bonjour.
Cette tant attendue réunion de Luanda en présence des présidents congolais et rwandais ne s'est donc finalement pas tenue. On parle d'un désaccord profond entre les deux camps. Le Rwanda voulait que la RDC mène un dialogue direct avec les rebelles du M23, ce que Kinshasa a catégoriquement refusé. Qu'est-ce qui laissait penser à Kigali que la RDC allait accepter de parler avec les rebelles ?
Difficile de savoir exactement ce qui se passait et c'est certainement un embarras pour la facilitation. Parce que ce genre de dossier majeur ou des accords majeurs devrait être résolu avant une telle réunion entre les différents chefs d'État. Donc, difficile de savoir, comme vous dites, les Rwandais disent qu'il y avait un accord là-dessus, au moins un accord pour parler de cela. Les Congolais rejettent cette version. Difficile de savoir exactement ce qui se passait.
Mais on pouvait s'imaginer que le Rwanda savait que Kinshasa allait refuser. Pourquoi Kigali avait-elle maintenu sa venue à cette réunion de Luanda ?
Comme j'ai dit, c'est difficile de savoir si, donc, dans les préparatifs pour la réunion, ce que moi je sais, c'est qu'on avait parlé plutôt des différents concepts opérationnels pour mettre en œuvre l'accord de paix qui devrait être signé. Donc, côté congolais, on devrait mener des opérations contre le groupe rebelle rwandais FDLR. Côté rwandais, ils devraient s'engager à retirer leurs troupes de la RDC. J'étais pas au courant qu'il y avait sur l'agenda le dossier M23. Alors, est-ce que c'était introduit à la dernière minute justement pour trouver un prétexte pour ne pas venir, pour pas signer cet accord de la part du Rwanda, ou est-ce que la version rwandaise est correcte, que c'était quelque chose discuté il y a longtemps, qu'il y avait un accord et c'est côté congolais maintenant qu'ils ont trouvé un prétexte pour ne pas venir. Donc, difficile de savoir exactement ce qui se passait.
En tout cas, c'est une annulation de dernière minute avec cette réunion tenue la veille entre ministres des Affaires étrangères qui s'est soldée par un échec. Jason Stearns, tout au long de la semaine, un vent d'espoir montait pour un potentiel accord. Nombreux sont ceux, d'ailleurs, qui voyaient la possibilité d'une entente. Le président João Lourenço avait lui-même fait part de sa confiance. Est-ce une grosse surprise que cette annulation ?
Pas vraiment. Le président Tshisekedi a tenu son discours État de la Nation juste avant la réunion de Luanda et il s'était certainement pas montré comme conciliateur dans ce discours où il accuse le Rwanda de essayer de repeupler à l'est de la RDC avec sa population. Le Rwanda dit même que Tshisekedi aurait menacé le régime de Kigali directement. Et donc, ça n'a certainement pas aidé les pourparlers à Luanda. Donc, c'était pas vraiment une surprise pour moi. Même s'il y avait signé cet accord, il y a encore un long chemin pour mettre en œuvre les différents concepts opérationnels qu'ils ont déjà signés. Je pense que si on regarde l'histoire du conflit de l'Est de la RDC, ce genre d'accord entre États arrive seulement avec beaucoup de pression sur les deux côtés. Alors, aujourd'hui, le Rwanda ne subit presque aucune pression de la part des bailleurs de fonds qui le soutiennent. Et côté congolais, je ne pense pas qu'ils aient un grand intérêt à se montrer conciliant envers le Rwanda. Donc, c'était pas vraiment une grande surprise pour moi.
Cette annulation, c'est aussi quelque part l'échec du président angolais, João Lourenço. A-t-il vraiment la main sur les négociations, puisqu'il n'a même pas réussi à réunir les deux camps ce week-end ?
C'est un dossier où le président Lourenço s'est beaucoup investi depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vraiment un problème pour lui, je pense, que Kagame n'était pas venu, même si Kagame avait promis de venir. Alors, je pense que la question maintenant va se poser, est-ce que Lourenço va continuer son implication ? Surtout qu'il avait été soutenu beaucoup par les États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes maintenant dans une transition à Washington. Et je pense que Trump probablement va mettre beaucoup moins d'accent et va déployer beaucoup moins de capital politique pour ce processus que son prédécesseur. Donc, il y a vraiment des grandes questions par rapport à l'avenir de ce processus de paix.
Alors justement, Jason Stearns, comment voir la suite ? À présent, les négociations vont-elles et surtout peuvent-elles se poursuivre dans un tel contexte ?
Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bouger côté diplomatique. Il faut soit plus de pression sur le Rwanda ou bien des évolutions militaires sur le terrain. Parce qu'on se trouve encore une fois dans un impasse. Cette impasse évoquée ou créée ce week-end par ce dialogue entre le gouvernement congolais et l'M23, c'était toujours le grand impasse dans ce processus de paix. C'est depuis 2022 que ce refus du gouvernement congolais de parler avec l'M23 a constitué le nœud du problème. D'ailleurs, c'est à cause de cela qu'ils ont créé le processus de Luanda, parce que le gouvernement congolais ne voulait pas se mettre autour d'une table avec l'M23. Donc, on se retrouve encore une fois dans une impasse après beaucoup d'actions diplomatiques cette année. Et est-ce qu'en 2025, on trouvera une issue de cela avec plus de pression sur Kigali ou des avancées militaires sur le terrain? Difficile de savoir, mais actuellement, on est rentré dans cette impasse.
Merci, Jason Stearns.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes chercheur au groupe d'études sur le Congo. Entretien à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Direction le Sénégal pour le reportage du jour. L'Institut Pasteur y célèbre cette année ses 100 ans sur le continent africain. L'une de ses avancées les plus marquantes reste la fabrication du vaccin contre la fièvre jaune à Dakar. Et aujourd'hui, le centre de recherche se lance dans la fabrication d'autres vaccins contre le Covid-19, mais aussi contre la maladie infantile de la rougeole et de la rubéole, mais plaide aussi pour une plus grande autonomie vaccinale sur le continent. À Dakar, Léa Lisa Vesteroff.
Badge et accès sécurisé, bienvenue sur la plateforme de développement du vaccin de la rougeole et de la rubéole de l'Institut Pasteur. Dans l'espace vitré, deux bioréacteurs, l'un pas plus gros qu'un robot de cuisine avec des pipettes à l'intérieur. Neymar Emba coordonne la fabrication du vaccin.
En fait, c'est une culture cellulaire. Une fois qu'on a assez de cellules, on infecte et cette infection-là permet aux cellules de produire le virus atténué.
Virus atténué qui devient ensuite le vaccin. 1,8 million de doses peuvent être produites dans cette machine en 6 heures. Et pour la première fois, le vaccin contre la rougeole et la rubéole va être entièrement fabriqué au Sénégal. Neymar Emba.
C'est pas seulement le vaccin en tant que tel, mais les gens qui sont impliqués dans le process. Tout est également fait de façon locale.
La cinquantaine de chercheurs qui développent l'antidote contre la rougeole viennent toutes du continent, mais des essais sont également en cours pour mieux adapter ce vaccin aux contraintes africaines, comme l'explique Dr Marie-Angélique Sen, responsable du Centre de développement des vaccins à l'Institut Pasteur.
C'est aussi parfois quelque chose de tout bête, comme utiliser des réactifs en poudre qui peuvent être transportés, qui n'ont pas besoin de cette chaîne de froid-là et qu'on peut reconstituer sur site.
Pour l'heure, Dakar n'en est pas encore là. Les premières doses fabriquées par l'Institut Pasteur seront accessibles début 2027, car si la fabrication du vaccin a commencé, il faut ensuite faire les tests cliniques. Quoi qu'il en soit, pour le docteur Marie-Angélique Sen, il y a urgence à fabriquer les vaccins sur le continent.
En dehors du vaccin Covid lui-même, il y a beaucoup de vaccins qui étaient difficiles d'accès, dont rougeole, rubéole. C'est produit principalement en Inde. Il y a eu des ruptures de stock et on a eu pas mal d'épidémies dans différents pays qui ont tué des dizaines de millions d'enfants. Donc l'importance pour nous de récupérer cette plateforme et de la produire ici, c'est d'assurer l'accès à ce vaccin-là aux populations africaines en cas de besoin.
L'Institut Pasteur s'est donc aussi lancé dans la fabrication de vaccins contre le Covid-19 de type ARN messager et travaille à créer un vaccin pour lutter contre la fièvre de la vallée du Rift, maladie spécifiquement africaine. Amadou Sall, virologue et directeur de l'Institut Pasteur, se réjouit de cette évolution.
Depuis 100 ans, on a trouvé le virus de la fièvre jaune ici. On a fait un vaccin. À l'époque, il y avait très peu de locaux qui étaient impliqués. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces vaccins, comme vous avez pu le constater, fait l'objet de développement et de production qui impliquent essentiellement des équipes locales. Pour moi, c'est ça la coopération réussie.
À ce jour, 5 à 8 millions de doses de vaccins contre la fièvre jaune sont produites chaque année par l'Institut Pasteur. Une fabrication sur le continent africain qui doit également aider à lutter contre la méfiance et l'hostilité grandissante face aux vaccins. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Et c'est à Dakar où il est midi 59 que se referme cette édition d'Afrique Midi. Merci à Lorraine Nemoza, à la réalisation, à Laurent Chaffard, à la rédaction en chef, à Pierre Vallée, attaché d'édition qui m'ont aidé à la préparation de cette demi-heure.
À demain, Nemo en Peace. Vous restez avec nous sur RFI, on se retrouve dans une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Reportage à Lyon à l'occasion de l'inauguration de l'Académie de l'OMS.
Mercredi.
Résister à la déprime dans un monde anxiogène.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
RFI Talent présente Gabriel Alma. Découvrez C'est mes chamas revous, le premier single de l'artiste brésilienne avec Vanille en invité. Disponible sur toutes les plateformes.